Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
La nuit de l'after continue en direct de notre studio new-yorkais ici. Il est minuit 3 en France, il est 18h03 sur la côte est américaine. Et Daniel Riolo est de retour dans le studio. Daniel, rebonsoir.
Bonsoir les amis.
Et Walid Acherchour est également. Walid.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
L'Équateur bat l'Allemagne 2-1. La Côte d'Ivoire bat Curaçao 2-0. L'Allemagne première de la poule qualifiée. La Côte d'Ivoire deuxième de la poule qualifiée. Et l'Équateur troisième de la poule qualifiée également, assurée de terminer parmi les 8 meilleurs troisièmes. On va en parler dans quelques instants. Dans une heure, Japon-Suède et Tunisie-Pays-Bas. Dernier match de cette poule. Et puis à 4h du matin cette nuit, il y aura encore deux matchs avec les États-Unis, les Américains qui joueront face aux Turcs et le match Paraguay-Australie. C'est surtout le match Paraguay-Australie qui aura un intérêt dans cette poule puisque les Turcs sont éliminés et les Américains assurés de terminer premier. On parlera également de l'équipe de France.
Les Américains, vous commencez à me croire quand j'ai dit quart de finale minimum, on y est ou on n'y est pas pour les Américains?
Il y a encore un peu de route, mais en tout cas, c'est...
on me rejoint, je veux dire.
Ouais, c'est...
Quand tu dis on est encore un petit peu de route. Tiens, moi je suis assis dans la voiture, tu me demandes en stop ou pas?
Non, il y a un petit peu de route pour aller en quart de finale, mais en tout cas c'est une équipe qui a montré des belles choses sur le début de la compétition. Oh, je peux rentrer dans la voiture.
Les perspectives des Américains.
Dépend de Pulisic.
Les Américains,
Il y a pays organisateur, parcours un peu gâteau.
Ouais. Normalement ils vont jouer la Bosnie, possiblement.
16e.
La meilleure 3e.
Donc, gâteau, mais c'est les gâteaux mous, tu sais.
Et après, ils rencontreraient le vainqueur, si évidemment c'est à confirmer, mais en l'état de Égypte-Corée du Sud.
Ouais, c'est. Voilà.
Ouais, donc ils sont en quart.
Ah là, c'est vrai qu'ils ont une petite partie de tableau qui est pas mal.
Ouais, sympa, toi, chouette.
Voilà.
La petite partie de Disneyland, quoi, avec le fast-pass.
Voilà.
Pour aller dans le Space Mountain, c'est le fast-pass, tu fais pas la queue, quoi.
Bon, par contre, après, c'est Portugal ou Espagne, donc.
Oui.
Bon, voilà.
Mais là, ce sera une autre histoire.
Exactement.
J'ai pas dit qu'ils allaient en demi, moi, j'ai dit en quart.
J'ai dit qu'on parlerait de l'équipe de France. Fabrice Hawkins te rejoint dans quelques instants. Il a la compo d'équipe pour demain. Et puis, d'ici 1h du mat, on dira un mot également du groupe des Pays-Bas qui joue tout à l'heure. Mais d'abord, Équateur-Allemagne. Tiens, Paulo Breitner nous rejoint. Paulo, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Alors, Paulo,
avant
qu'on parle de l'Équateur, est-ce que t'as compris...
C'est pas propre, hein, Paulo.
Est-ce que t'as compris pourquoi dans un match de coiffeur... Nagelsmann garde la même équipe type, il fait rentrer Undav, on change rien, quoi.
Il l'avait annoncé en conférence de presse. Moi, je comprends rien parce que c'est un match en bois pour les Allemands, évidemment.
Oui. Puis au final, ça peut se retourner un peu contre eux parce que tu dis que tu fais jouer ton équipe type et tu perds.
Alors tu perds, mais en plus tu perds tous ceux qui sont potentiellement titulaires ou qui pourraient mettre les autres en concurrence. Il y aurait pu y avoir des débats, etc. Et tu tranches. En fait, moi je comprends rien à ce que fait Nagelsmann depuis le début de la compétition. Ça en a déjà un petit peu parlé. Tout le monde en Allemagne évidemment disait au minimum récompenser Undav par une titularisation lors de cette troisième journée. Il a mis son équipe team. Mais pire, ceux qui fait rentrer, ce sont même pas des coiffeurs. C'est des mecs qui sont là. On sait même pas pourquoi. Juste qu'il faut faire la liste de 26. Tu vois, Bayer, on l'a pas vu. Taon, on l'a pas vu non plus. Et ça va. C'est vraiment là où on pouvait avoir des concurrences, des joueurs en concurrence, il le fait même pas. Donc il avait dit il y a plusieurs mois déjà que de toute façon il avait 11 joueurs plus 5, ça s'arrêtait là. Donc moi à l'époque où il avait dit ça, je me posais la question de la motivation des 10 joueurs qui restaient dans le coin, quoi. Et voilà, je pense que ça va s'arrêter assez rapidement par les Allemands qui sont aussi passionnants qu'un édito sur la couture. Moi, il y a rien dans cette équipe. Tu vois bien qu'il a, ils ont pas envie. L'Équateur évidemment veut se qualifier, donc très bien pour l'Équateur. Je sais pas trop quoi dire sur ce genre de rencontre qui aurait dû nous amener quelques débats. Est-ce qu'il faut mettre Lévelin à droite à la place de Sané? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais en fait,
moi, ce qui m'embête le plus, Polo, dans cette équipe, c'est un vrai manque de personnalité, quoi. Je vais pas trop faire le chapitre, je te l'ai fait l'autre fois sur la personnalité et le fait qu'on a l'impression que certains joueurs grandiront jamais et que ce sont des enfants. Mais j'ai du mal à trouver quelque chose de nouveau à dire. Alors moi, tu connais la sélection mieux que moi, donc je t'ai laissé dire que tu comprenais pas bien ce que faisait Nagelsmann, mais je crois qu'avec Walid, on a pensé la même chose quand on regardait le match, ne serait-ce que dans les intentions de jeu globales. Je sais pas s'ils ont été surpris d'être pris aussi vite à la gorge par l'Équateur qui était venu clairement pour se dire c'est notre dernière chance, on peut se qualifier, on y va, et tout ce qu'on avait dit de pas bien sur l'Équateur depuis le début de la compète, parce qu'il y a quand même une sacrée équipe, et ben là, c'était le moment ou jamais pour eux, le moment, non seulement ils l'ont bien choisi, mais ils ont attaqué tambour battant, ils ont pris à la gorge, et ils les ont pas beaucoup lâchés, parce qu'il y a pas eu beaucoup de bonnes séquences pour les Allemands quand même,
ça, Daniel,
quand même
ce soir.
Et bousculé par cette équipe équatorienne, j'ai pas vu énormément de réactions. J'ai pas vu beaucoup de réactions, j'ai pas vu des Allemands avec.
Attends, Paul, avant de répondre. Ouais. Attends, avant de répondre, parce que Walid a encore rien dit.
Non, d'ailleurs, c'est surprenant. Et moi, je suis d'accord avec Daniel et Paulo. Moi, le match, il est pas loin d'être ridicule, et même la gestion de Nagelsmann est incompréhensible. À partir du moment où tu sors de ce match-là, si t'avais perdu contre l'Équateur avec une équipe remaniée, bon, on aurait zappé en disant mon rendez-vous en 16e de finale.
C'est l'impression
dégagée. Sauf que là, t'as l'équipe type, t'as des intentions de jeu. Déjà, pour moi, le premier but ne doit pas exister, il y a faute. Mais au-delà de ça, après l'ouverture du score, tu t'es endormi avec un système, Polo. Moi, j'ai pas compris Kimmich dans la défense à trois, là, avec Leroy Sané, piston, où tu laisses l'initiative du ballon, tu presses très, très peu, t'as pas de verticalité. Moi, je comprends pas. C'est pas le football de Nagelsmann, sur la mi-temps, proposée. Et puis derrière, bon, à un moment donné, t'étais, face à une équipe, de l'Équateur qui a joué sa survie dans un stade, en feu, et t'as pas réussi à compenser, le manque d'intensité. Non, c'est très, très décevant. Et moi, je voulais voir une équipe d'Allemagne avec Undav qui démarre pour essayer de voir ce qui pouvait être amélioré au fur et à mesure de la compétition. On ne l'a même pas eu. On n'a pas eu l'association avec Havertz. Non, franchement, moi. Et puis après, on rajoutera certaines individualités. On en parlera après. Mais Kimmich, Moussiala, Neuer,
l'intention. Même Wirtz, je le trouve pas assez.
Après, c'est pas son pire match.
Wirtz, ça devait être un génie du foot. Oui, ça devait être un mec qui devait prendre cette Coupe du Monde.
Elle fait peur à personne. Tout le monde dit attention, en huitième, la France, etc. Mais moi, je vois Mbappé au Lycée. Mbappé au Lycée entre le milieu de terrain et la défense de l'Allemagne. Franchement, ça me fait pas du tout peur pour l'instant.
Deux choses.
À toi, Paulo.
Vu le déchet technique qu'on a vu ce soir du côté allemand, je ne peux pas m'imaginer qu'on ait une équipe d'Allemagne qui soit concentrée à 100%. Donc le vrai débat, c'est...
Oui, tu veux dire, il n'y a pas une application dans ce match
Les déchets techniques, les passes qui ne sont pas assurées, etc. Donc moi, si on me dit que l'équipe d'Allemagne, elle est motivée pour cette rencontre, il faut qu'on m'explique le football. Quoi.
Ça veut dire tu dis ça, ça veut dire que tu mises un peu sur une... pour expliquer la très mauvaise performance de ce soir, sur un manque de concentration.
Non, mais sur une sorte de...
Limite, ça pourrait être... Enfin, pas rassurant, mais ça pourrait atténuer les critiques ce soir. Mais moi, j'ai le sentiment que la presse allemande, qui est quand même dure, et tu la connais mieux que nous, et les consultants un peu historiques, machin... Alors, je me demande s'ils vont se faire défoncer, là, non?
Alors, il y a plusieurs choses. Là, le vrai débat pour moi, c'est pourquoi commence-t-il avec son équipe type. Moi, ça, c'est incompréhensible ce soir.
Je suis d'accord.
Sauf à continuer dans la logique qu'il a faite. Et... tu parlais de la presse allemande. La seule satisfaction que j'ai eue de cette Coupe du Monde 2026 depuis qu'elle a commencé, c'est un documentaire en quatre parties sur le service public qui parlait de l'échec de la Coupe du Monde 94. Donc, si tu veux, moi, ça n'a rien à voir avec cette compétition qui ne m'intéresse pas, jusqu'à maintenant, qui est inintéressante sur plein d'aspects, mais de comprendre pourquoi la presse allemande était d'une violence... mais on vous rendez pas compte là en France la violence qu'il y avait sur le sélectionneur de l'époque en 94. Donc c'est un truc.
Oui, on va dire c'était un peu historiquement le premier vrai échec de l'Allemagne en Coupe du Monde, quoi.
Voilà, mais c'était un truc de fou alors qu'il y avait les champions du monde 90 qui étaient encore là. Il y avait là pour la première fois des joueurs de l'Est Allemagne, de l'Allemagne de l'Est, etc. Pour une Coupe du Monde, pas pour un championnat d'Europe, parce qu'il y avait 92. Et donc le documentaire était exceptionnel. En gros, c'est pas du Netflix, quoi. C'était vraiment des documentaires avec une dizaine, quinzaine de personnes qui étaient interviewées. Et là, c'était la violence de la presse. Aujourd'hui, la presse allemande, même la presse allemande, c'est quoi ? Par rapport à la Nationalmannschaft. Ils sont comme tous les autres pays européens, c'est de la rigolade, oh ben mince, on a perdu, ceci, c'est pas bien, pourquoi on n'a pas mis Undav, blablabla, il n'y a rien du tout.
Mais vraiment, mais il ne reste pas les vieux consultants à la sulfateuse, là, ils sont où, là?
Ils sont génération Beckenbauer aujourd'hui, les journalistes de l'époque et ceci et cela, donc ils sont de moins en moins.
Je parlais d'Oliver Kahn.
Il a plus le droit de parler, Effenberg.
Non mais Oliver Kahn, il voulait même pas que Moussiala soit à la Coupe du Monde, donc c'était.
Il l'envoyait aussi.
Et puis surtout Polo, il sort de deux échecs en 2018, en 2022 où ils sont pas sortis des poules aussi.
Oui,
c'est que donc là en fait les six points.
Non, mais tout à l'heure, vous avez parlé de des États-Unis. Il y a eu un match préparatoire entre l'Allemagne et les États-Unis qui a été largement gagné malgré le score de 2-1 par les Allemands et qui faisait espérer autre chose sur le terrain. Et on n'a rien vu depuis maintenant. Le premier match, évidemment, contre Curaçao, ça n'a rien à faire en Coupe du Monde. On a une équipe solide, évidemment, la Côte d'Ivoire, qui allait embêter les Allemands, ça on le savait. Et puis, il y a ce non-match qui est là. Moi, je veux vivement que ça commence, quoi.
Alors, est-ce que vous voulez dire qu'on peut encore miser sur le fait que les Allemands sont pas encore totalement entrés, on doit les voir mieux que ça, parce que là moi j'ai pris un sacré choc parce que moi j'ai toujours envie, parce qu'il y a des bons joueurs, parce qu'il y a la tradition, parce que Nagelsmann, depuis le début de la compète, bon, l'Allemagne j'ai pas mis dans mon premier chapeau, mais pas loin derrière, je me dis c'est une équipe dont il faut se méfier, le 8e contre la France, ça peut être bien et tout. Quand je vois ce soir, je me dis pour la France c'est cadeau.
J'ai pas attendu ce soir moi contre la Côte d'Ivoire déjà moi il a fallu attendre les changements avec Ondav pour voir véritablement une équipe.
Tu peux encore te dire que c'est une équipe qui peut monter en
plus, oui.
s'améliorer.
Là je trouve moyenne
ce soir,
moi.
Donc Polo, je te repose ta question, tu dis c'est encore possible que ce soir ils ont un peu laissé un peu dilettante, pas vraiment concentré, mais on va les voir mieux que ça. On va les voir mieux.
Moi je les ai déjà vus mieux. Le problème, c'est qu'avant cette Coupe du Monde en Allemagne, on n'attend rien de cette sélection. Moi, j'ai dit que j'allais me faire porter, encore une fois, parce qu'il y a 3 semaines qui ne servent à rien dans cette compétition, donc avant que ça commence à être vraiment intéressant. Donc, je vais voir comment il met en place son équipe, etc. Ce soir, je revois une mauvaise équipe d'Allemagne, et encore une fois, il y a des joueurs, est-ce qu'ils doivent être là? Est-ce que, pourquoi est-ce qu'ils décident?
Mais Sané, il a des dossiers sur Nagelsmann?
Mais non, il a pas
les
dossiers.
C'est pas son pire match, c'est pas son pire match en plus.
Il y a Gnabry qui se blesse et le jeune Lennart Kahl qui se blesse juste avant la compétition. Donc c'est pour ça que
c'est mais tu peux pas jouer, Polo.
C'est pas son pire match, c'est indulgent.
Oui, j'en peux plus. Oui, d'accord. Moi aussi, c'est l'un des joueurs que je veux pas dire détesté, mais en tout cas, moi, j'étais fan du joueur et il est très irritable. Mais aujourd'hui, il ouvre le score, il a une ou deux occasions. Voilà, c'est pas ce soir que je vais le critiquer. Mais c'est pas possible de voir une association adverse Undav d'entrée, Polo. Parce que sincèrement, sur la première heure de jeu, t'as une défense à trois avec Kimmich dans la défense à trois avec un rythme de sénateur. Tu laisses l'initiative du ballon à l'équateur. Tu t'en satisfais. C'est pas Nagelsmann, c'est pressing haut, c'est quand même, il aime avoir la possession de balle. À l'Euro, c'était une équipe quand même très très différente. Bon, il y avait encore Toni Kroos au milieu de terrain, mais là, moi, je trouve que même, je retrouve même pas mon Nagelsmann dans la conception du jeu. Je trouve ça étonnant, en fait, si on doit parler même tactique, en fait.
Il y a plein de dossiers qui sont pas ouverts, y compris en Allemagne, ou alors, les gens ne font pas le même métier. Je parle les entraîneurs d'un côté et je parle les journalistes des autres de l'autre côté. Jürgen Klopp je l'avais dit sur le cas de Mencha, par exemple, au milieu de terrain, que tout le monde dit c'est merveilleux, etc. Moi, heureusement que je le vois depuis quelques années, Mencha quand même. Les sélectionneurs, les coachs allemands ont tout de suite noté que celui qui est responsable des 2 buts encaissés face à Curaçao et face à la Côte d'Ivoire, c'est Mencha qui n'est pas repositionné. Mencha, après la Côte d'Ivoire, il se met à la note de 1 dans les journaux allemands.
Il a fait un gros match contre la Côte d'Ivoire.
Mais non, le but c'est pour lui. Il n'est pas
repéré. Oui, le but soit pour lui.
Oui, d'accord, mais dans le contenu,
Une passe décisive magnifique. Il est quand même prêt. Il est quand même bon.
C'est quoi son boulot à Nmetcha?
Non, mais qu'il prenne un but soit pour lui.
C'est quoi son boulot à Nmetcha?
Moi, il m'a fait penser à Moussa Dembélé, le Belge, moi, sur le match contre la Côte d'Ivoire. J'avais beaucoup aimé, moi, contre la Côte d'Ivoire, Polo.
Donc, Christian Streich a dit que c'était de sa faute, Jürgen Klopp dit c'est de sa faute, et on lui met des notes faramineuses dans les médias. Donc, ok, très bien. Donc,
non, tu sois fautif sur un but, je veux bien, mais ok,
tu es sélectionneur. Est-ce que tu as un milieu de terrain, Pavlovic, Kimmich, qui a très bien fonctionné, l'un des meilleurs d'Europe, et tu mets Kimmich au poste d'arrière droit, et tu décides, en plus,
si
pour bien montrer que tu as raison.
Si tu me l'expliques comme ça, je te dis pas que d'accord.
Tu décides en plus, parce que tu veux absolument montrer au monde entier que tu as raison et que tous les autres ont tort, je ne prends pas de remplaçant à Joshua Kimmich au poste de latéral droit. Donc, il n'y a pas plus simple comme symbole de ce qu'il veut faire. Ok, Nmecha, c'est un mec qui est arrivé sur la pointe des pieds il y a 2 ans à Dortmund, etc. Il a fait une saison moyenne, bonne, ça dépend, en tout cas il a un bon développement. De là à en faire le mec dithyrambique dont j'entends un peu partout, enfin faut arrêter 5 minutes. Mais moi ce qui me plaît, c'est que les journalistes, c'est que les médias, les coachs allemands qui eux comprennent les rencontres, te disent là il doit être là, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là, pourquoi est-ce qu'il est là-bas, et non pas par une passe décisive.
Non, si tu m'expliques que c'est parce que t'aurais aimé que Kimmich joue à sa vraie place dans l'association Bayern.
Mais moi je veux rien, moi Daniel.
Quand tu le dis comme ça, je comprends le raisonnement.
Mais comment on peut l'améliorer cette équipe?
Polo. Comment Undav ne peut pas démarrer? Il fait une grosse saison avec Stuttgart. À chaque fois qu'il rentre, il est impactant. Il est le lien un petit peu entre le milieu et l'attaque avec beaucoup de connexions. Il est efficace. Il faut quand même le faire exprès pour pas faire démarrer même sur un troisième match. Moi, je trouve ça fou en fait.
Mais Nagelsmann le fait exprès, évidemment. Mais
il le fait exprès.
Mais il l'a dit en conférence de presse. Moi, j'ai mon 11 et ça ne bouge pas. Il l'a dit il y a des mois. Il dit, moi, j'ai mon 11, mes 5 remplaçants, ça s'arrête là. Donc, t'emmènes un groupe de 26, t'en perds près de la moitié pendant un moment. Et voilà.
Tiens, Polo.
Ça montre des grosses limites quand même.
Je vais faire appel évidemment à tes talents de traducteur. On va écouter Joshua Kimmich. Est-ce que tu veux bien essayer de le traduire en direct?
Allons-y.
Allez.
Ja, ich fand, wir sind eigentlich relativ gut ins Spiel gekommen, gehen früh in Führung.
Ici, à peu près, à réussir, tranquillement, dans la rencontre, on a marqué rapidement. Puis après, on a perdu un ballon, et, notre adversaire a réussi à revenir dans la rencontre. Bon, et puis, il faut le dire, dans la seconde mi-temps, c'était vraiment une défaite qui était logique. Alors, le journaliste lui posait la question, est-ce que c'est une question dans la tête, ou c'est une histoire de balles perdues, est-ce que c'est des problèmes de concentration? Non, personne n'est arrivé dans la rencontre et a commencé la rencontre en pensant que de toute façon on aurait fini premier. Parfois ça arrive, c'est malheureux pour nous. Et puis évidemment, on ne peut pas se permettre une autre défaite. Est-ce que vous estimez que c'était, vous êtes sorti parce que c'était une blessure de votre part, donc vous sortez parce que c'est, il y a un risque que vous soyez blessé. Il dit non, c'était discuté avec Nagelsmann. Et maintenant, il faut absolument éviter de perdre les balles, etc. J'ai essayé de vous faire ça en direct. Voilà.
Bravo. Tiens, d'ailleurs, comment tu m'as prononcé Thio, le remplaçant de Kimmich, ce soir?
Ciao.
Ah, ciao, en allemand, on dit ciao. D'accord.
Ah ouais.
Père sénégalais, mère finlandaise, joue pour l'Allemagne.
Ciao.
Voilà.
Oui.
C'est marrant de le dire comme ça. Les Allemands disent ça, ok.
Walid, qu'est-ce que tu as pensé du match de Neuer?
Catastrophique. Parce qu'on parle de Nmecha, etc. Mais s'il y a un joueur qui est passé complètement à côté et que je trouve depuis la fin de saison bien en deçà de son réel niveau, bien évidemment Manuel Neuer, pour moi c'est le meilleur gardien de tous les temps. Mais là faut arrêter.
Non, pas de tous les temps.
Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Je trouve qu'il a révolutionné le poste. Mais il y a un moment à 40 ans, faut arrêter le cirque. Quoi.
De tous les temps, tu veux dire de tous les temps de l'histoire du football?
De mon temps alors, en tout cas, de mon temps. Voilà, Manuel Neuer, pour moi de mon temps, il a révolutionné ce poste. J'ai aucun souci là-dessus. Mais là, la gestion du poste de gardien de la part de Nagelsmann pose question aussi. Entre Baumann qui jouait sur les matchs de prépa juste avant, même un Urbi qui a joué avec le Bayern Munich, que je trouve plus frais dans la dynamique, parce que Neuer, depuis son match incroyable contre le Real au Bernabeu, ça a été catastrophique au retour, ça a été catastrophique contre le PSG, et là je suis désolé, mais sur le match entre le premier but et le deuxième, surtout le deuxième, moi je trouve qu'il a plus l'explosivité nécessaire et que c'est problématique dans un tournoi, si même le poste de gardien avec un joueur aussi fort supposément te crève certains matchs. Donc moi, Manuel Neuer, la fête est finie. Qu'il aille voir du pays, ou sinon qu'il s'assoie sur le banc à côté de Nagelsmann dans un rôle de leader. Mais il doit laisser sa place aux jeunes. Lui, quand il est arrivé très très fort, il a joué très très vite dans ses clubs ou dans sa sélection. Il doit faire la même chose pour la nouvelle génération. Moi, j'en peux plus des gens qui se forcent ou qui forcent alors qu'ils ont plus leur niveau d'antan. Et Neuer, on parle beaucoup de Cristiano Ronaldo, mais Neuer, moi je trouve, en fait partie. C'est terminé, quoi. C'est trop.
Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? D'accord avec Walid?
Moi, quand je vois Neuer prendre le deuxième but, évidemment, ça me fait presque un peu de la peine. Lui qui était le gardien, au-delà de ses qualités footballistiques, en termes de caractère, le gars, tu vas pas lui marcher dessus facilement, tu vas pas le bousculer. Là, t'as un mec qui arrive pleine bourre sur lui, il a peur de mettre les mains, ça fait presque de la peine. Vraiment, le mec, il était apeuré, quoi.
Et même sur le premier but, bon, il est caché par Pavlovic, mais je trouve que son explosivité, c'est normal à son âge. C'est plus Neuer, quoi. On l'avait vu sur le but de João Neves aussi au Parc des Princes. Tu sens que pour jumper, il a plus cette force-là et il a plus cette vitesse. Et c'est quand même un problème. Surtout que déjà à la relance, moi je trouve que sur les derniers mois, il fait des relances parfois un peu kamikazes. Je comprends pas la gestion, Polo. Tu peux m'expliquer? Parce que Baumann jouait. Je crois que Nagelsmann avait dit qu'il allait démarrer la compétition.
bon. En tout cas, il avait fait comprendre. Et même le petit Urbik, moi, à chaque fois que je le voyais avec le Bayern, je trouvais qu'il était, il était bon, ce gardien. Pourquoi s'entêter?
Bah, pourquoi s'entêter? Si on écoute Nagelsmann, il estime qu'il a pris avec lui les trois meilleurs gardiens d'Allemagne et que Manuel Neuer en fait partie. Ensuite, comment cela s'est passé est en effet un petit peu dégueulasse pour Baumann. Et lorsqu'on parlait de motiver un groupe, moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi Oliver Baumann n'était pas titulaire pour cette troisième rencontre. Ça lui aurait donné l'occasion de jouer la Coupe du Monde, il a fait toutes les qualifs, etc. Ensuite, je suis d'accord avec vous sur le fait que Manuel Neuer n'est évidemment plus à son top. Ce soir, il est pas excellent. Il est pas aidé non plus par Jonathan Tah, parce que pendant un moment, j'ai cru que c'était Manuel Neuer qui déconnait, mais lorsqu'ils ont failli se prendre un but avec l'attaquant,
quand il sort et qu'il rate le ballon.
Ouais, quand il sort. Mais en fait, c'est pas lui, c'est Jonathan Tah qui dégage n'importe comment. Mais oui, il est pas depuis le début de la compétition, il est pas là, ouais.
Il y a un débat là-dessus là en Allemagne sur les trois premiers matchs ou pas du tout?
Non. Non, il y a pas grand chose de débat.
Non, maintenant c'est avec Neuer jusqu'au bout. Maintenant c'est Neuer.
Ouais, okay. Bah, de toute façon, le 11 de départ, là, on a eu Rome qui était titularisé, qui a pas été excellent d'ailleurs, au poste de latéral gauche, parce que Nathaniel Brown a des petites douleurs et a des problèmes aux entraînements, donc c'est pour ça que Rome a été titulaire. Bon, Rudiger a été titularisé parce que Schlotti est out, mais voilà, c'est assez.
Schlotti. Ouais. C'est son petit surnom. Alors, tu voulais parler de Wirtz, Daniel?
Wirtz, bah, que ce soit Wirtz, comme je disais tout à l'heure, ou Moussiala, je parle même plus de Sané parce que on a tout dit sur eux, mais oui, c'est pour moi, ils traduisent, okay. Ils illustrent parfaitement ce que l'Allemagne.
Moussiala, il y a plus de sel dans le bretzel, il y a plus rien.
C'est-à-dire que là, il y a, en termes avant tout de caractère, dans une grande compétition, pour le haut niveau, il suffit pas d'être technique, de bien tripoter le ballon, d'être un beau joueur de foot, d'être un mec dont on dit que tu accompliras des merveilles dans ta carrière. J'ai un moment, Wirtz, il sort d'une saison à Liverpool, que donc était un gros transfert. Je ne vais pas refaire sa saison. Là, il arrive à la Coupe du Monde. Moi, je pensais qu'il allait être le patron de...
Belle passe dé quand même pour le Roi Sané.
Cette équipe. Ouais, mais on va pas se mettre à...
Non, mais
à souligner.
Oui, il faut le dire quand même. Non, mais... Parce que c'est vrai que les deux premiers matchs étaient décevants dans l'efficacité.
Là, on attend quand même.
Ah oui.
Autre chose.
Oui,
on peut pas de souligner.
De toute façon, c'est des gentils garçons. On sait très bien qu'on aime bien ces joueurs-là.
C'est pour ça que je répète un peu.
Mais c'est des mecs qui laissent le pourboire, qui laissent le tips partout à New York, là, qui, voilà.
C'est du. C'est obligatoire.
Voilà. Oui, mais c'est du gros tips.
Oui, c'est bonjour madame, bonjour monsieur.
Dans un pays où le pourboire n'existe pas quand même.
Oui, c'est vrai.
Non, tu vois, non,
il ramène le croissant à la rédac, c'est super sympa. Par contre, il faut un peu plus de méchanceté. Et Moussiala, depuis la blessure l'année dernière contre le PSG avec Donnarumma, mais moi, je vois que son explosivité n'est plus la même. C'est même parfois sur certains contacts, il a peur, il est craintif, il y va plus comme avant. Il a plus la même explosivité. Alors que c'était un joueur générationnel, c'était un joueur qui avait un truc spécial dans les pieds. Et je le ressens, bon, je le ressens beaucoup moins. Il y a plus rien.
Un mot de l'équateur. Plus de sucre. Un mot de l'équateur. Qui s'est bon.
Ah, c'était la folie, par contre, au stade, c'était la folie là.
Et qui s'est qualifié, qui a réussi son coup.
Alors, c'est marrant parce qu'on a vu des Allemands partout.
Ouais.
Et au stade, on a l'impression que c'était les Équatoriens qui étaient en
Ça fait deux jours que j'ai pas vu un Équatorien, il sortait d'où en fait? Parce que là, le terrain, il était jaune.
C'est parce que ce matin, il y a 300 Allemands qui se sont prêtés au petit déjeuner, Walid. Ils ont tout mangé d'ailleurs.
Mais par contre, il n'y a plus rien. La deuxième mi-temps, on est en Équateur. On n'est pas aux États-Unis.
Non, mais l'Équateur, la façon dont ils ont joué le match, genre dos au mur. Alors après. C'est quand même, il faut quand même préciser, pardon, on aurait peut-être dû le faire en préambule, mais un match de foot dans lequel une équipe joue sa survie dans la compétition face à une qui ne joue plus rien, ça ne peut jamais être un match de foot à 100%. L'essence du sport restera toujours que pour qu'on atteigne le haut niveau, les deux doivent redouter plus que tout la défaite. Or là, l'Allemagne ne redoutait pas la défaite. Donc déjà, ça change un petit peu et forcément l'analyse. Je reviens à l'Équateur. Eux étaient dos au mur, au bord du précipice. C'était ça ou rien. Et ils ont fait réellement ce qu'ils devaient faire. Être offensif, attaquer, faire du pressing, faire tout pour récupérer la balle très vite, mettre dans l'intensité dans la rencontre. Les bons joueurs ont été bons. C'est quand même une des équipes. Alors, ils étaient pas non deuxième chapeau, mais enfin, ils étaient dans les outsiders, dans les équipes qu'on avait envie de voir. Y a des bons joueurs dans cette équipe. Pour l'instant, on les avait pas vus. Là, ce soir, moi, je les ai vus. Ça m'a plu. J'ai aimé. Voilà, j'ai aimé cette équipe et ce qu'elle a montré.
Non, mais grosse réaction surtout parce que
elle a voulu maîtriser sa rencontre.
Parce que la victoire était obligatoire et tu prends ce but-là d'entrée. En plus, pour moi, il y a faute. Au passage, il y a quand même une ou deux décisions. On a dit que l'arbitrage était très intéressant, très agréable, mais je trouve qu'il y a des décisions parfois un peu bizarres. Le penalty là du Ghana contre l'Angleterre, on peut pas voir la VAR. Là, la même chose. Pavlovic, il a
sauté. D'ailleurs, le pied. Dans cette Coupe du Monde, on y va là-dessus.
Ouais, d'accord.
On y va au contact.
Ouais, d'accord.
Enfin, Polo, ça doit te plaire la façon dont on laisse les contacts dans cette Coupe du Monde quand même.
Oui, les contacts.
On y va là.
Il y a quand même deux, trois.
Là, ça chouine pas là.
Deux, trois situations bizarres quand même.
On a connu plus grave, mon cher Daniel, quand même.
Ah mais d'accord, là, mais ça doit quand même te faire par rapport aux années récentes.
Oui, dans c'est le pas football. La Coupe de 90. Bah,
honnêtement, on y va là. Oui, on n'atteindra jamais l'Argentine Cameroun, c'est ce que tu veux dire.
Au moins, c'était du foot.
Mais arrête, honnêtement, c'était pas du foot. On a j'adore cette sélection du Cameroun de 90, mais ce qu'ils ont fait dans le premier match.
Il
y en a un minimum 3 qui doivent avoir rouge à la 60e.
Il y a un premier commentaire qui vient de sortir, un premier édito qui vient de sortir sur le Kicker. C'est comme ça que finit très rapidement le chemin allemand, donc la voie allemande, en parlant de cette prestation de ce soir.
En gros, il les voit pas aller loin, quoi.
En gros, c'est fini, au revoir.
Non, mais là, si c'est France en huitième, déjà, il va falloir une autre Allemagne, quoi. Il va nous falloir.
Bon, faut qu'on avance. Il y a la Côte d'Ivoire dans quelques instants pour conclure.
Un dernier mot. Sur ces dernières années, il nous est souvent arrivé, en plus en Coupe du Monde, ça s'est mal passé. Il nous est souvent arrivé d'avoir ce regard sur l'Allemagne. Un peu trop sage par rapport au passé, irrégulière, notamment dans ses individualités. Et on a également eu, dans la même période, des matchs de l'Allemagne où on était un peu ébahi. Il y a ce fameux match là. Alors, vous allez m'aider, mais où Wirtz marque au bout de 20 secondes là contre la France là.
C'est 2-0 au Groupama Stadium.
2-0. Là,
oui, c'est un match amical.
Oui,
trois mois avant leur Euro.
C'est ça.
Où là, on s'est dit, sont de retour. Ouais.
Mais en fait, dans l'Euro, ils sont bons. Problème.
Ouais. Mais contre l'Espagne, ils perdent un match extraordinaire.
Donc, on a eu des bons,
où cette génération, où les Wirtz et compagnie ont donné le sentiment d'être.
Oui, enfin, c'est l'ordre de compétition, Wirtz et Moussiala.
Donc.
Ouais.
Est-ce que sur un soir,
ils
peuvent enfiler un costume qui brille un peu plus?
Avec ce gardien-là, avec cette défense-là, avec Jonathan Tah et Rudiger, parce qu'on n'a pas parlé de Rudiger. Mais
si tu me demandes de mettre les clés de la bagnole, je les mets pas. Mais. Moi, je laisse quand même un mais.
Moi, faut montrer le DVD de l'Allemagne qui gagne la Coupe du Monde. Hein. J'aimerais bien le voir. Je vais
ça
dans un vidéo futur. Ouais. Faudrait me le montrer.
Ça fait quelques années qu'il est incompréhensible de comprendre les prestations de l'Allemagne qui peuvent être de très très haut niveau et d'un seul coup, trois jours après, tu joues un autre match.
On laisse le mai en suspens malgré tout.
Ah oui, mais le problème, c'est que c'est toujours le mai qu'on retient et c'est ce qui va se passer.
On verra.
Et même, il n'y a même pas une équipe animée. Moi, je sens que cette équipe n'est pas animée de quelque chose, en fait.
Polo, merci beaucoup.
Merci.
Salut, Polo.
À très vite. Salut, dans un instant, la Côte d'Ivoire.
Algérie-Autriche.
Ah, le fameux Algérie-Autriche. Oui. Polo. Polo. Il nous a balancé sa petite bombe.
Polo, ne me chauffe pas dessus, Polo.
Et il se barre.
Il faut connaître l'histoire du foot, Walid.
Polo, il a connu, Polo.
Est-ce qu'il y avait eu
quelque chose,
Polo?
Il n'y avait rien du tout. Ils avaient marché sur les Algériens.
Polo, s'il te plaît.
Je te refais toute l'histoire.
Polo, t'as fait un bon débrief, Polo. Allez.
On se voit en 16e,
Polo.
Qui te l'a raconté ce match d'abord? Ma famille, mon papa.
Donc c'est Pipo. Il t'a pas mis 3-2 contre le Chili?
Ah oui, m'a parlé.
Il y a 3-0 et 3-2.
Mais ils se sont bien checkés pour tuer l'Algérie, Polo. Tu peux me raconter l'histoire que tu veux, c'est une réalité.
Bah oui, mais si tu continues à mener 3-0, mon gars.
Ah oui, c'est mais toi si tu.
C'est toi le fautif.
Mais ils se sont arrangés, Polo.
C'est pas interdit.
D'accord que.
On y vient, c'est pas interdit.
Mais c'est pas interdit, tu vois.
Ils ont arrêté de jouer.
Non, mais est-ce que t'aurais fait autre chose?
Hein?
T'aurais fait autre chose.
Comment ça, je sais pas.
Mais tu peux pas faire autre chose.
D'accord, mais c'est pas sportif.
Non.
Normalement, au judo, normalement, tu prends une pénalité au judo.
Ce qui est pas sportif.
Au handball, la même chose.
Mais non, sauf qu'on est au foot.
Ce qui n'était pas sportif, c'était le règlement. C'était de faire jouer le dernier match après. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu la réforme derrière.
Maintenant, c'est plus possible.
Voilà. C'est ça, en fait.
Ouais. Merci, Polo.
C'est plus possible jusqu'à demain ou après-demain.
Si ça a été fait.
La Côte d'Ivoire qui se qualifie dans quelques instants et l'équipe de France au programme avant les matchs qui démarrent à 1h du matin tout à l'heure. Japon-Suède et Tunisie-Pays-Bas. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 34 en France, il est 18h34 ici dans le studio New York et de l'After. Daniel Riolo, Walid Acherchour sont là. On a les matchs dans 25 minutes maintenant, 26 minutes Japon, Suède et Tunisie, Pays-Bas. Mais on veut parler de la Côte d'Ivoire qui se qualifie pour la première fois en phase finale de la Coupe du Monde. Écoutez une réaction, celle d'Emers Faye, le sélectionneur, il y a quelques minutes à l'issue du match.
C'est la fierté, c'est le premier mot qui me vient en tête. On savait qu'on pouvait le faire, on savait que ça allait être difficile. On l'a fait. En plus, on finit deuxième. On voulait pas passer par la troisième place, par le meilleur troisième, parce qu'on aurait dit, ouais, avec l'ancienne formule, on serait pas passé. On avait un groupe relevé, on a réussi à finir deuxième et à sortir. On est content, on est fier. Maintenant, on voit encore plus loin. On va bien se reposer, bien préparer le 16e de finale.
Alors, vous êtes le premier coach ivoirien à atteindre ce niveau de la compétition, mais pas que. Vous avez gagné aussi la CAN. On a envie de dire que MS Faye, c'est l'homme des records.
Bon, bah, c'est pas moi qui le dirais. Mais ouais, c'est pas mauvais. C'est pas mal, ça fait plaisir. Personnellement, pour le staff, pour les joueurs, toujours. Encore un record. Bon, on prend. J'espère qu'il y en aura encore d'autres. Mais en tout cas, voilà. La Côte d'Ivoire mérite. La Côte d'Ivoire peut profiter, peut fêter ce soir. Et continuer à nous encourager, à nous envoyer beaucoup, beaucoup de prières, beaucoup d'ondes positives pour qu'on aille le plus loin possible encore.
Alors, coach, quand même, analyse de ce match. Comment vous avez trouvé la prestation de l'équipe durant ce match face à cette équipe de Curaçao?
Ouais, c'était un peu plus compliqué que les deux derniers matchs. On avait beaucoup de déchets techniques par rapport à ce que les joueurs peuvent faire. On a eu beaucoup de pertes de ballons qu'on aurait pu éviter. Qui leur a donné des opportunités. On n'était pas très très bon non plus sur les deuxièmes ballons. On avait un peu de pression quand même aussi. On voulait pas sortir ce soir après les deux premiers matchs qu'on avait fait. Donc ouais, c'est pas notre meilleur match des trois, mais le plus important c'est qu'on gagne le match, c'est qu'on n'encaisse pas de but et qu'on soit qualifié pour le prochain tour.
À qui vous dédiez cette qualification?
Ah, à tous les Ivoiriens, à tout le monde, à tous les Ivoiriens, les joueurs, le staff, à ma famille évidemment, et tous mes proches, mes potes qui sont là pour moi à chaque fois, que ce soit bon, que ce soit pas bon. Cette victoire, cette qualification, elle est pour eux, mais comme j'ai dit, on veut pas s'arrêter là, on veut aller le plus loin possible et on va continuer à travailler pour ça.
Il se pourrait que le prochain adversaire soit entre la France ou la Norvège, vous préférez qui?
Nous, il n'y a pas de préférence, nous on vient, on joue, on essaie d'aller le plus loin possible. Maintenant, l'équipe qu'on croit sur notre chemin, on va travailler, on va se préparer pour les jouer. De toute façon, si vous voulez aller loin, là, vous devez être prêt à jouer contre toutes les équipes. Donc, voilà, on prendra celui qui viendra. Et puis, on n'a pas de calcul à faire.
Félicitations et merci beaucoup pour cette qualification.
Voilà donc les Ivoiriens qui effectivement joueront le deuxième de la poule de la France.
C'est ce qui est même frustrant.
À Dallas.
Comme le Maroc hier, on en a parlé avec Younes, c'est que pour moi la Côte d'Ivoire était tout proche d'être la meilleure équipe de cette poule. En tout cas, ils ont montré des très très belles choses et ils sont deuxième à 6 points à égalité avec l'Allemagne à cause de l'histoire du goal à virage. Et c'est frustrant parce qu'ils ont fait une super phase de poule. Moi, je trouve que dans le contenu, même là, même si c'est pas leur meilleur match, parce que il y a toujours le côté honteux de perdre contre le Curaçao, de perdre des points contre le Curaçao, et donc t'es favori alors que t'étais outsider ou touche sur l'Équateur et sur l'Allemagne. Donc t'as une physionomie de match qui est très très différente. Et malgré ça, ils ont réussi à être efficaces avec un PP encore buteur. Mais ça récompense quand même une très très bonne phase de poule. Et là où c'est un peu frustrant, c'est que tu vas avoir la Norvège, ou la France. Alors que t'aurais pu avoir le Paraguay, je crois, ou un troisième de poule un peu plus abordable. Et ça se joue à très très peu de choses. Mais en tout cas, bravo à Emers Faye, bravo à cette équipe qui nous a donné déjà beaucoup beaucoup de plaisir en les regardant. Et on a hâte de voir le 16e, parce que si ça fait Côte d'Ivoire Norvège, c'est une sacrée affiche aussi.
Ouais, d'ailleurs,
qui va être très intéressante à suivre.
Avant de dire ce que j'ai à dire sur la Côte d'Ivoire, sur cette formule.
Ouais.
Que je trouve complètement bidon. On se rendra compte au moment du tableau des 16e.
Ça, je te rejoins là.
De l'injustice qu'il va y avoir.
Je le dis depuis 2-3 jours.
Pour certaines équipes qui ont fait des très beaux parcours, d'avoir des 16e hyper compliqués, alors que des 3e de groupe vont limite avoir des matchs plus faciles. Ça va. Je pense qu'on fera des bilans à un moment pour se rendre compte de certaines choses complètement dingos, comme par exemple un 3e qui va devoir attendre le dernier moment pour connaître l'identité de son adversaire qu'elle jouera le lendemain.
Ou rentrer à la maison.
Bref, on aura le temps d'en reparler. Je disais avant la rencontre que j'attendais une victoire claire, nette de la Côte d'Ivoire contre un adversaire à sa portée, juste pour envoyer un message. Le message, c'était quoi? On a bien joué jusque-là, même contre l'Allemagne, on a perdu, mais on a fait un bon match. On est une sélection qui arrive à la Coupe du Monde avec avec de l'ambition. On est une bonne équipe. Il faut le montrer à tous les matchs. Pas de relâchement parce que c'est une petite rencontre, parce qu'on est qualifié, parce que si cela, ils l'ont fait. Moi, je suis vraiment satisfait de la façon dont ils ont joué ce match, sans se mettre en danger, sans jamais donner l'impression que c'était un match en bois, qui comptait pas pour eux et tout. Je trouve que c'est très solide. Après, le problème, c'est que tu peux toujours dire, est-ce que la belle histoire du continent africain, c'est la Côte d'Ivoire cette année dans la compétition, comme le Sénégal a pu avoir à une autre époque, ou le Maroc il y a 4 ans?
Moi, j'y crois.
Eh ben, oui, non, mais le problème, c'est que j'allais te dire, j'ai envie de croire à ça. Sauf que dès les 16e, oui, bah, oui, tu prends la Norvège qui est une sacrée équipe. Donc voilà, tu vas peut-être être, parce que la formule veut que...
Ou la France, selon, ou la France.
Ou ce, oui, selon qui tu croises, tu peux, bim, tomber sur un os dès les 16e de finale, alors que d'autres vont tomber sur des équipes beaucoup moins fortes. Donc voilà, c'est ça qui m'empêche,
alors que...
qui m'empêche de miser gros sur là. Mais je pense qu'on est face à une belle sélection qui avait remanié son équipe aujourd'hui,
oui,
quand
oui,
même.
Oui,
hein.
Oui, oui, oui.
Et, ouais. Franchement, moi, cette sélection, elle me plaît.
Alors que t'es, alors que t'étais déjà dans une poule qui était compliquée, Daniel, parce que l'Équateur, Allemagne,
ouais, bon,
Curaçao est en dessous, ouais. Et je trouve que le.
Et ils avaient fait oublier, ouais. L'Équateur ne s'est réveillé, enfin, pour nous, à nos yeux, que ce soir, hein, mais jusque-là, c'était Allemagne, Côte d'Ivoire. Et c'est maintenant que
même si sur le premier match, même si sur le premier match c'était très équilibré et que ça s'est tombé en faveur de la Côte d'Ivoire avec les entrants qui avaient fait beaucoup de bien, mais déjà tu ressors renforcé de cette phase de poule, même si Daniel n'aime pas le côté historique, la Côte d'Ivoire n'est jamais sortie de poule de son histoire en Coupe du Monde, même si ça reste un 16e de finale. Et je trouve que ce que dit Faé est très intéressant. Il dit nous on voulait pas être troisième, passer à la troisième place. Sinon, on nous aurait dit, dans la nouvelle formule, c'est grâce à la nouvelle formule. Là, il dit non, on est dans les deux premiers. Ouais. On est dans les deux premiers. Ça, je trouve ça quand même impactant et fort.
On va rajouter égalité de points avec l'Allemagne.
Exactement. Ou t'as touche-touche avec l'Allemagne. Et je trouve que ça, c'est quand même un vrai accomplissement. Maintenant, la suite, il faut nourrir de l'ambition. L'appétit vient en mangeant. Et cette équipe, elle a vraiment, vraiment de la qualité pour gêner n'importe qui. Et moi, par exemple, tout à l'heure, je le disais, l'Allemagne ne me fait pas peur. Mais, j'aimerais pas que la France tombe sur la Côte d'Ivoire en 16e de finale. Moi, sincèrement, ce serait une équipe qui, je pense, moi, peut nous gêner athlétiquement. En fait, ils ont tout, la Côte d'Ivoire. Ils sont peut-être un peu naïfs encore sur les fins de match. Encore que contre l'Équateur, ça n'a pas été le cas. Mais ils ont le côté athlétique, ils ont le côté technique, ils ont l'intelligence de jeu, ils ont vraiment le bon mix, ils ont une vraie force sur le banc. Parce que là, Nicolas Pépé va peut-être pas jouer le 16e de finale. T'as des joueurs qui peuvent rentrer et faire la différence. On l'a vu sur le premier match, on l'a vu aussi encore aujourd'hui en faisant tourner. Donc, attention à la Côte d'Ivoire. Et on a hâte de voir le 16e de finale.
La Côte d'Ivoire, je trouve une particularité et une avance sur d'autres pays africains, c'est le développement d'un football technique très tôt. Enfin, il y a pas mal de temps maintenant dans son histoire, et je trouve que ça se voit. Je trouve que ça se voit. Il y a des joueurs qui ont du ballon, qui ont une habileté technique que d'autres pays n'ont pas.
Et puis la réalité, c'est qu'ils ont été
la façon qu'ils ont de voir le foot.
Et ils ont été aussi renforcés là récemment par des arrivées. Enfin, même si moi j'aime pas appeler ça. Dans ces termes, mais Eli Wahi, Ange Boni qui ont choisi la sélection, tu prends même un Guela Doué avant la Coupe d'Afrique des Nations qui a choisi
Boni qui d'ailleurs n'a pas été exceptionnel contre Curaçao aujourd'hui.
Oui, mais j'ai trouvé très bon moi contre l'Allemagne. Mmh. Où moi je le préfère à Wahi dans sa connexion avec le reste de l'équipe.
Je préfère à Wahi largement.
Ahmad Diallo aussi qui depuis un an est avec cette équipe là, il y a une vraie force et Yann Diomandé qui
est en d'ailleurs, on n'a pas entendu, il paraît qu'Yann Diomandé avait peut-être des choses à dire dans la conf et dans l'après-match.
Ah bon, c'est vrai que c'est peut-être pas encore passé.
Par rapport à quoi, son transfert?
Ah, je sais pas, on nous a dit surveiller.
Ah, il peut faire une Alvarez?
Ah, j'en sais rien. On m'a dit surveiller, je sais pas.
Ok, bon.
Pour l'instant, il a pas encore.
Okay. Surveiller, il avait mis une veste.
Oui, il fait son choix, c'est Liverpool. Liverpool?
Je sais pas.
En tout cas, il fait tout pour ressembler à Gervinho avec le bandeau.
Ouais, c'est vrai qu'il a un côté un peu Gervais.
Ouais.
Il a un côté un peu Gervinho.
Bon, voilà pour la Côte d'Ivoire. Dans un instant, l'équipe de France. Fabrice qui nous va nous rejoindre parce qu'il a la compo de demain. Et vous allez voir qu'on va refaire toute la défense. Et que Dembélé va jouer en partie. Je vous ai dévoilé quelques informations, mais le reste arrive avec Fabrice dans quelques secondes. À tout de suite dans l'After
RMC, l'After Foot intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Il est 18h45 ici à New York, il est minuit 45 en France dans la nuit de l'after avec un programme sympa qui arrive avec deux matchs là dans maintenant un quart d'heure. Match en jeu, hein, parce que les Pays-Bas doivent assurer leur première place notamment. Bon, là, ils jouent face à la Tunisie qui malheureusement est à la rue dans cette Coupe du Monde. Et puis Japon-Suède qui est pas mal également.
Et les Américains ce soir.
Oui, ça c'est un peu plus tard encore.
Après, il y a l'anecdotique. USA Turquie.
Oui, il sert à rien celui-là.
Il sert à rien celui-là. C'est plus Paraguay.
C'est double coiffeur là. C'est.
Ouais. Okay, peu importe.
Paraguay, quoi, tu m'as dit Paraguay.
Paraguay-Australie.
Paraguay-Australie, ouais.
C'est le pays hôte, c'est la famille.
Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas dit, Gilbert, c'est ouais. Important. Ah oui, c'est la famille carrément, lui, en train de vriller, Daniel. Juste pour revenir sur l'Équateur très rapidement, sur les 4 points de l'Équateur, ça met dans la merde le Sénégal. Parce que le Sénégal et la Belgique.
Oui, ça réduit les chances d'être dans les meilleurs troisièmes.
L'Écosse, pour moi, l'Écosse, ils peuvent déjà regarder. C'est quoi? C'est Blue Bee qu'il faut regarder? C'est quoi? Ils peuvent regarder déjà les vols. Hein. C'est comment ça s'appelle?
Oui, E-Dreams.
French Bee.
C'est une compagnie.
British Airways.
Ils peuvent aller regarder British Airways parce que là, je pense que ça pue, l'Écosse. Ouais. C'est-à-dire que Julien a envoyé des messages à certains joueurs. Mais là, le Sénégal, parce qu'en fait, ils ont le dernier match contre l'Irak. La Belgique, ils ont le dernier match contre la Nouvelle-Zélande. Il va falloir gagner pour la Belgique. La même chose pour l'Algérie, s'ils perdent contre l'Autriche, ça risque d'être très compliqué. Donc il va falloir surveiller Japon-Suède, très important. Si la Suède prend un point, ils font 4.
L'Algérie, ça va pas faire un nul contre l'Autriche.
Il va falloir faire le nul. Mais s'ils font pas le nul contre l'Autriche, ça va être très compliqué. La même chose pour le Sénégal. Parce que là, Japon-Suède, Gilbert, Suède peut faire 4 points en faisant un nul. L'Équateur vient de faire 4 points en étant meilleur 3e. Paraguay peut faire 4 points ce soir en serrant la main contre l'Australie.
Tu es en train de faire tes petits rangements là.
Ouais, parce que c'est important.
Qu'on peut pas dire aussi par rapport à la nouvelle formule que les équipes qui vont jouer à la fin.
Bah oui, ils sont avantagés.
Ils vont se faire 2-3 petits calculs.
Bah bien évidemment.
Merci.
Mais ils peuvent. Merci. Je sais pas s'ils vont le faire, mais ils peuvent.
Non, mais ils peuvent.
Mais c'est pour ça.
Ils peuvent regarder en se disant tiens là avec autant de points si on fait un nul c'est bon. Alors je suis pas en train de parler. Bon, attention.
Ça existe aussi à l'Euro. La meilleure troisième.
Je ne suis pas en train de parler d'arrangement. Je suis en train de dire quand tu sais. Toi qu'un match nul, comment tu prépares ton match,
j'ai reçu un message sur une idée d'une nouvelle formule, enfin à 48, mais sur un nouveau modèle pour se qualifier au 16e de finale. Est-ce que je peux vous en parler? Vous me dites si aussi.
Allez, après on prend Fabrice Hawkins qui nous attend.
C'est Sad qui m'envoie ça. J'ai réfléchi à un nouveau format de la Coupe du Monde à 48 équipes. Et je trouve qu'il ne récompense pas suffisamment les meilleures phases de groupe. Par exemple, le Maroc termine deuxième avec 7 points, invaincu. Mais au final, ça n'apporte aucun avantage. À l'inverse, ce que disait Daniel tout à l'heure, un meilleur troisième peut parfois se retrouver avec un parcours aussi favorable, voire plus favorable. Je proposerai donc un format un peu différent. Les 12 premiers de groupe plus les 4 meilleurs deuxièmes sont directement qualifiés pour les 8e de finale. Et les 8 autres deuxièmes et les 8 meilleurs troisièmes disputent un barrage pour décrocher les 8 dernières places en 8e. Au final, on retrouve bien les 16 équipes en 8e, mais les équipes ayant réalisé la meilleure phase de groupe sont récompensées par un match en moins. Je trouve que cela aurait plusieurs avantages. Récompense réellement les meilleures performances, inciter les équipes à continuer d'attaquer, ce que disait Daniel, jusqu'au dernier match, et limiter les calculs et les matchs où un nul arrange tout le monde. Je trouve que l'esprit de la compétition y gagnerait et ça relèverait le niveau de la Coupe du Monde. Je suis d'accord avec ça de moi. Je trouve que c'est en fait
une formule. On reparlera de ça quand on aura le temps.
Un peu barrage Ligue des Champions.
Parce que là, il nous reste 7 minutes, les gars.
Et qu'est-ce que tu veux faire de 7 minutes? On a l'impression que tu es en urgence là.
Oui, je suis en urgence.
Tu veux pas te mettre tes bras comme ça en direct en urgence?
Ah oui, il y a des nouvelles données sur la compo parce qu'on nous a
dit. Les informations évoluent.
Ah oui, d'accord.
Les informations évoluent.
Ça bouge.
C'est comme ça. Il est là, Fabrice. Fabrice, bonsoir.
Salut, les gars.
Fabrice,
oui, parce que il y a quelques heures de cela, on était parti sur Dembélé très incertain. Et exactement. Là, les infos évoluent, hein, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et a priori, il devrait jouer demain. C'est tes infos du soir. Enfin, de la nuit.
Oui, c'est ça. En fait, c'est pas qu'il était incertain par rapport à une blessure, mais plutôt le staff réfléchissait peut-être à le préserver. On sait qu'il a parfois eu du mal cette saison, qu'il y a eu pas mal de blessures, de pépins physiques. Et au Paris Saint-Germain, comme en équipe de France, ils essayent dans la mesure du possible de faire attention à cela. Et il y avait une réflexion qui était menée depuis hier soir. Et a priori, donc, Ousmane Dembélé va bien débuter demain soir titulaire donc pour ce dernier match de groupe face à la Norvège. Il sera accompagné en attaque d'Olise au milieu, toujours dans cette position de numéro 10, à gauche Désiré Doué, devant Kylian Mbappé. En défense, il y aura du changement aussi, Mike Maignan dans les buts, ça ne bouge pas. À gauche, on devrait retrouver Théo Hernandez, donc qui récupère sa place de titulaire. Upamecano et Maxence Lacroix plutôt que Ibrahima Konaté dans l'axe. Et puis à droite, là aussi, il y a eu des changements ces dernières heures, puisque Malo Gusto était annoncé. Et finalement, selon nos informations, c'est bien Jules Koundé qui va enchaîner avec une troisième titularisation.
Oh non, mais on ça, change non, deux défenseurs non, sur, pas sur ça, quatre pas ça,
pas
au final.
Ça, pas ça. Non, non, mais sérieusement. Et Jules Koundé, en fait, si tu le reposes pas là maintenant pour voir Malo Gusto, tu le fais quand, en fait? C'est terminé, quoi. C'est, on n'a pas, on va pas avoir une autre solution. C'est Jules Koundé jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive.
Mais
à un moment donné, faut ouvrir quand même le poste de latéral droit, quoi.
J'ai l'impression qu'il se referme de plus en plus, Walid. Hein.
Non, mais franchement, non, non.
C'est un signal qu'on envoyait quand même.
Ah oui, non, mais moi, je suis pas d'accord.
Beaucoup pensaient que Malo Gusto aurait eu sa chance. Je pense même que.
Ah oui, c'était le match parfait.
Lui, il espérait avoir sa chance sur cette rencontre. Et ça n'en prend pas du tout le chemin.
Moi qui récompensais la méritocratie de Didier Deschamps avec Lacroix qui était meilleur sur les derniers rassemblements par rapport à Konaté, où on jouait pas au statut dans la hiérarchie bleue. Là moi j'ai un problème. Pourquoi Lucas Digne a remplacé Théo Hernandez à gauche contre l'Irak, et pourquoi Jules Koundé ne laisserait pas sa place sur le troisième match, alors que Malo Gusto, à chaque fois qu'il a été utilisé en équipe de France, il a été pertinent. C'est lui qui en Ligue des Nations avec Ryan Cherki change le match contre l'Espagne l'année dernière. On a besoin de Malo Gusto, faut pas le perdre, Malo Gusto. C'est une vraie gâchette, c'est une vraie balle pour Didier Deschamps sur la suite de la compétition. Non, je comprends pas ce choix. Sincèrement, je comprends pas.
La seule explication que je vois, Walid, en fait, c'est que il est pas très en forme. En tout cas, il est pas en confiance. Jules Koundé, il a déjà joué à un niveau qui est largement au-dessus de ce qu'il a proposé, notamment contre l'Irak.
Ah oui, comme il sait, ça remonte quand même.
Dans son esprit, c'est lui qui va jouer le 16e et les autres matchs si l'équipe de France va plus loin. Il veut peut-être lui donner un autre match pour qu'il emmagasine de la confiance et qu'il arrive sur les matchs à élimination directe avec le plus de confiance.
Oui, mais on n'est pas là pour faire plaisir, Fabrice. Mais je suis d'accord avec ton explication. C'est comme ça que je le vois aussi. Mais il y a un moment où t'es pas bon. En tout cas, t'es moyen. On doit voir un peu plus de dynamisme sur le côté. Surtout que la première mi-temps, Dembélé Koundé, moi je l'ai répété, mais on a joué à cloche-pied où il y avait pas de rythme. Mais même pour l'ailier, je pense que Koundé sent moins le foot actuellement qu'il a pu nous montrer sur l'Euro notamment, ou même un peu après avec le Barça quand il était en grande forme. Là, c'est plus le cas. On doit voir autre chose. Moi, je trouve que c'est comment je le vois. Deschamps veut pas de mots de tête, en fait. Il sait que Malo Gusto peut jouer contre la Norvège et faire un gros match. Et derrière, on va avoir 3-4 jours de débat ou même lui-même en se disant, ah, ben finalement, est-ce que Malo Gusto est pas meilleur que Koundé? Il veut pas se persuader de ça. Avec un match contre la Norvège. Il veut pas de soucis. Il veut pas de problème.
Walid, sauf qu'il se met des mots de tête avec le milieu, parce que là, il va remettre Koné.
Oui, mais
Koné. En 16e, tu fais quoi de Koné? Tu remets Tchouaméni Rabiot?
C'est intéressant. Il va y avoir les mêmes débats.
C'est intéressant. Oui, mais sauf que Rabiot est bon depuis le début de la compétition. Et Tchouaméni est un taulier. Donc c'est moins problématique.
Donc tu justifieras comme ça le fait de remettre Tchouaméni Rabiot. Voilà.
C'est moins problématique que Koundé. Koundé n'est pas bon.
Si Koné demain il fait le bon match qu'il a fait contre l'Irak.
Oui, mais c'est pas grave, parce qu'en fait c'est des bons problèmes. Quoi qu'il arrive, Rabiot ou Koné, moi je pense que l'équipe de France, bon, ça dépend des aptitudes, mais c'est fiable, en fait, les deux. Sauf que là, Koundé, offensivement, même défensivement, il n'est pas en confiance. Et qu'est-ce qu'on fait alors, Fabrice? T'es pas Didier Deschamps, mais qu'est-ce qu'on fait si Koundé fait encore un match moyen?
Mais
qu'est-ce qu'on fait s'il fait encore un match moyen? En fait, on le remet aussi en 16e en se disant.
Questions peuvent se poser. Après, il a un profil, c'est vrai, qui est plus intéressant défensivement, même si encore une fois, il a manqué de confiance sur les dernières rencontres. Mais par rapport au profil de la Norvège, où il y a quand même du lourd devant, que ce soit Sørloth, Haaland ou Nusa, je pense qu'il y a aussi peut-être cette réflexion qui est entrée en jeu, au-delà de la projection sur les 16e de finale et après, de se dire, on va mettre quand même un profil qui est plus défensif, parce que sur les contres, sur les transitions, ça peut faire très mal.
Ok.
Bon, et je vous renvoie à rmcsport.fr où vous aurez l'intégralité des conférences de presse du jour de Tchouaméni et de Guy Stéphane, qui donc demain sera sur le banc à la place de Didier Deschamps, comme tout le monde le sait. Voilà pour l'équipe de France. Daniel, rien à rajouter ?
Ah non, sur l'équipe de France, on a tout fait tout à l'heure déjà, et notamment sur ce choix de Koundé que je comprends pour l'équilibre de l'équipe, et je n'ai rien à ajouter. Et s'il se rate, comme disait Walid, ou s'il fait encore un match moyen, il sera là en 16e, rassure-toi.
Okay, donc
je lis le Deschamps.
On parle pour rien, c'est parce que
je lis le Deschamps.
Fabrice,
pour Deschamps, tu me demandes.
Il y a autre chose aujourd'hui qu'il faut pas oublier, faut pas rater à minuit 55 pour ceux qui n'ont pas écouté le début de la nuit de l'after, ou t'as fait le tour là?
On a plus ou moins fait le tour, non? Après le petit pas de côté, c'est ce qui se passe à l'hôtel des Bleus en ce moment, c'est-à-dire que les familles peuvent venir. Ça, c'est des choses que faisait pas le staff des Bleus.
Fabrice, moi j'ai un truc pour toi. Je voulais te demander, mais je suis sûr que tu vas confirmer le rôle de plus en plus important dans le groupe de Lucas Digne. C'est peut-être quelque chose que les gens ne savent pas.
Oui. Non, ouais, très apprécié.
C'est un truc que les gens ne savent peut-être pas, mais parce qu'on le, c'est pas pourquoi on imagine qu'il est un peu effacé ou timide. Je sais pas, parce que c'est peut-être on a une fausse idée sur lui. Or, c'est vraiment un leader. Tu savais ça, Gilbert ?
Non.
Ça vous étonne un peu ?
Non, non, sur l'ancienneté, il est là depuis, voilà. depuis longtemps.
En fait, c'est plus que leader, c'est quelqu'un qui est respecté et.
Ouais, les gens lui parlent, vont se confier à lui. C'est bien, je trouve. Enfin, bon, ça
il réunit plusieurs générations.
Ouais. Enfin, je sais pas si
il arrive à faire une espèce de trait d'union en fait entre les entre les générations et entre les groupes, même s'il n'y a pas vraiment de groupe par groupe, je veux dire clan, ça n'existe pas aujourd'hui en équipe de France, mais
et les affinités,
le trait d'union. Ouais. Voilà, exactement. Voilà. Mais en tout cas, les familles, et ça c'est quand même quelque chose de positif pour les joueurs, parce que parfois ils peuvent avoir l'impression que le temps est vraiment long, peuvent venir de temps en temps à des heures raisonnables évidemment. C'était le cas hier, ce sera le cas ce soir, ce sera encore le cas après le match. Il y a même un repas de prévu. Donc l'idée c'est toujours de mettre une espèce de bonne ambiance et de pas couper les joueurs, puisque le tournoi, on le sait, il sera beaucoup plus long qu'en 2022, et c'est important de garder des joueurs qui sont bien mentalement.
Merci Fabrice, toutes les infos à retrouver sur rmcsport.fr. Karine Galli prend la suite dans quelques instants avec les matchs Pays-Bas, bon match, Tunisie et Japon-Suède. La nuit de l'after continue jusqu'à 5h du matin.
Walid, hein.
Salut Walid, salut Daniel.